Bienvenue dans le News and Analysis Show de Entreprendre dans la mode, le talk show dans lequel je vous offre chaque semaine, accompagné d'un invité, une synthèse de ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine dans le monde de la mode.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le News and Analysis de Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui, et comme tous les mois, avec Delphine Delval de Pool Creatives. Et une fois n'est pas coutume, on est en face-to-face aujourd'hui, on est à l'hôtel Grand Amour à Paris. Et lors de son passage à Paris, Delphine nous fait le bonheur de venir me rencontrer en face-to-face.
Bah ouais, salut, on va Delphine. Pas manquer cette occasion. Salut Adrien.
Comment vas-tu?
Merci de m'avoir choisi un super joli micro rose. J'adore.
On vous enverra une photo, exactement. Alors cette semaine, je voulais qu'on discute d'un rapport qui vient de sortir chez Business of Fashion. Ça s'appelle How to Maximize Your Influencer Strategy. Et raconte-nous peut-être deux, trois mots avant de commencer sur ce rapport, parce que je sais que tu as un petit peu participé.
Oui, alors j'ai été contactée par l'équipe de Business of Fashion au début de l'année, peut-être en février maintenant.
Ouais.
Par leur équipe. Ça fait longtemps quand même que les marques leur demandent un petit peu de leur donner plus de guidelines. Et puis surtout, ils s'aperçoivent que ça fait partie des articles qui ont le plus de lecture. Donc voilà, c'était important pour eux de faire ce projet. Ils m'en ont parlé et on a fait une interview d'une heure et demie autour de ces différents points dont on va parler.
Ouais.
Vraiment pour parler aux professionnels dans les marques.
Ouais.
De mon expérience en tant qu'agent. Et ils ont également parlé à des agences médias, ils ont parlé à d'autres, à certaines influenceuses, à certaines marques qui ont eu beaucoup de succès avec certaines campagnes, pour essayer de créer un rapport assez complet, que ce soit des débuts de l'approche, du choix des influenceurs, jusqu'au côté contrat et comment les aider à créer des contrats qui incluent toutes les clauses qui sont importantes, parce que on sait que si on n'inclut pas certaines choses, il y a des chances qu'elles soient pas dans les postes ou dans les projets finaux. Et après, c'est très difficile de revenir en arrière si ça n'a pas été négocié dès le départ.
Très bien.
Voilà.
Eh ben, écoute, on va rentrer un petit peu dans le détail de tout ça. Dans un premier temps, j'aimerais que tu nous expliques rapidement. On va pas tout détailler. On va pas vous délivrer tous les secrets de ce rapport. Hein, mais en tout cas.
Non, sinon on va se faire taper sur les doigts.
C'est clair. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de l'influence marketing? Parce que souvent, moi, c'est quand même un sujet qui revient régulièrement dans mes podcasts, quand j'interview des gens, que ce soit des attachés de presse, etc. Bon, l'influence marketing et l'influenceur, ça date pas d'Instagram. L'influence marketing, elle a toujours été là depuis que les médias existent, en fait.
Exactement, ouais. Depuis, en fait, que la publicité existe, on a utilisé des célébrités. Donc là, on le voit dans cette fresque historique qu'ils ont créée, plus ou moins. Donc, dans les années 50, c'était beaucoup les socialites, comme on dit, qui étaient invités au défilé, qui étaient ensuite dans les magazines. À l'époque, beaucoup de magazines de mode utilisaient les socialites pour la mode. Ensuite, dans les années 60, 70, 80, c'était beaucoup les pop stars qui étaient les stars des campagnes. Dans les années 90, c'est redevenu les mannequins qu'on a transformé en supermodels et qui étaient vraiment ce que les jeunes filles suivaient le plus, qu'elles suivaient les garçons et les filles. On avait toutes des posters, des campagnes Chanel avec Claudia Schiffer, des campagnes Morgan avec autres, et donc on suivait ce que faisaient ces mannequins. À l'époque, on n'avait aucune idée, en tout cas quand on était ado, que Claudia Schiffer portait pas vraiment du Guess quand elle faisait une campagne pour Guess, et donc ça a créé une vraie visibilité pour toutes ces marques dans le monde, en fait. Elles ont vraiment été les premières à toucher dans le monde entier les ados. Et les jeunes femmes, et surtout à avoir des fans, en fait. C'était vraiment complètement différent de l'époque où c'était des stars qui avaient déjà des fans. Les mannequins sont devenus des stars et leur influence n'avait plus de limite. Enfin, on se souvient, au Monoprix, il y avait quand même les agendas pour l'année qui avaient des top modèles en couverture, etc. C'était vraiment quelque chose de nouveau. Ensuite, dans les années 2000, donc il y a eu toutes les blogueurs, blogueuses, hommes-femmes qui ont donc été, eux, des influenceurs, et puis surtout qui ont mis en avant une nouvelle nouvelle série d'influenceurs qui sont devenus les fashion editors, donc les rédactrices mode beaucoup, qui du coup elles ont même changé leur façon de se présenter parce que tout d'un coup elles avaient un public qu'elles n'avaient pas vraiment avant. Avant elles étaient vraiment privées, elles étaient dans le milieu de la mode et c'était uniquement ces personnes-là qui avaient accès à elles. Tout d'un coup le monde entier a eu accès à elles, à ce qu'elles portaient. Évidemment vous vous habillez comme les stylistes, comme Emmanuel Alt. Il y a des sites qui se sont créés autour de Karine Rothfeld, autour d'Emmanuel Alt, autour de Anna Delorusso, etc. Et puis il y a eu toute cette série de blogueuses, Suzy Bobble, Garance Doré, The Sartorialist, et jusqu'à la très jeune dont le nom m'échappe là, qui était la première ado qui allait au fashion show et autres. Donc ça c'était encore nouveau, et donc là c'est des gens qui ont rentabilisé leur plateforme digitale qui était donc des sites blogs à l'époque, donc étaient les premiers à vraiment d'un seul coup être suivis par la masse mondiale. La vraie mondialisation quand même a commencé à ce moment-là. Et ensuite petit à petit donc les réseaux sociaux se sont développés. Facebook a créé à transformer sa plateforme qui était vraiment au début une plateforme simple et uniquement de connexion entre gens qui se connaissaient, et puis petit à petit ils ont fait évoluer leur plateforme. Et puis quand Instagram a démarré, et Vine à l'époque qui maintenant n'existe plus mais c'est un peu TikTok maintenant qui a remplacé, sont venus, ça a été c'est un nouveau genre à exploser. Et donc là le rapport dit qu'on arrive en 2020, à vraiment la vraie maturité de ce marketing qui maintenant est devenu un peu plus complexe, puisqu'on est plus on utilise et on analyse ce système de marketing comme on le faisait avant pour de la pub télé, de la pub presse, des campagnes d'affichage, des campagnes cinéma, et donc vraiment donc c'est un petit peu le début de ce rapport, c'est vraiment de revenir sur d'où ça vient, comment on est arrivé là et comment ça change le game en fait, comment tout ça maintenant ça change la façon dont on travaille l'image d'une marque.
Très bien. Le premier gros morceau du rapport, ça commence en disant picking the right influencer. Il faut trouver le bon influenceur pour la marque, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont les tenants et les aboutissants de cette partie-là ?
Alors en fait, ça, c'est un petit peu similaire à ce dont on a parlé la semaine dernière. C'est vraiment déterminer l'ADN de sa marque et du coup, surtout aussi l'ADN de sa cliente ou de son client préférentiel, qui ensuite va déterminer un petit peu quel type d'influenceur, quel type de médias digital on va sélectionner. Donc, moi, ce que je leur ai dit à ce moment-là, c'est un moment où il faut décider et regarder un petit peu, cette marque concrète, elle est à tel prix, donc elle s'adresse à ce tel type de public, on crée un produit qui est classique, très branché, etc., etc. Qui est notre ideal customer? Et ensuite, quand on a ce customer, on se dit, où est-ce qu'elle vit, où est-ce qu'elle sort, qui elle fréquente, qui est-ce qu'elle suit sur les réseaux, elle, etc. Et donc, quand on arrive un petit peu à déterminer qui elle est, ce qu'elle lit, ce qu'elle mange, enfin, tout ce qu'on peut, en fait, on fait vraiment une recherche poussée, on arrive un petit peu plus à savoir et ensuite à utiliser soit les agences externes, soit les équipes internes pour faire des recherches poussées sur quelle est cette personne et qui elle cherche. Et donc, du coup, c'est là qu'on décide du type d'influenceur qu'on choisit.
Ouais. Il y a un tableau que je trouve vachement intéressant, c'est que en fonction de ce que tu veux atteindre, que ce soit de la visibilité, est-ce que tu veux créer de l'achat, etc., tu choisis un type d'influenceur.
Exactement.
Est-ce que tu peux détailler un petit peu ça?
Alors, les macro-influenceurs, donc ce qu'ils disent qu'il y a 500 000 et plus.
Ouais.
Donc, ça va jusqu'à les Kardashians qui ont plus de 100 millions, etc. Ça, c'est de la pénétration de marché. Donc, c'est ce qu'on disait la dernière fois. C'est vraiment comme de faire de la pub dans un très gros magazine de mode ou un très grand magazine gossip et d'avoir des millions de personnes qui vont vous voir. Donc là, on peut pas tellement toujours quantifier le retour sur investissement, mais ce qu'on peut quantifier, c'est le retour en visibilité. On peut voir combien de personnes ont vu cette campagne. Ils expliquent dans ce rapport que ça veut pas vraiment dire que ces filles ou ces personnalités qu'on choisit ont le meilleur engagement. Parce que bon, entre l'algorithme, etc., on ne sait pas toujours où on en est, mais on peut quand même savoir que si quelqu'un a 500 000 followers, il y a quand même une grosse partie de ce following qui va au moins voir la campagne, si ce n'est la liker ou interagir avec. Ça, c'est donc les influenceurs qui sont les plus chers, qui peuvent coûter jusqu'à 50 000 euros par poste. Donc il faut vraiment bien les choisir, il faut vraiment avoir décidé que ça c'est le gros de la campagne. Ensuite, on a d'autres types d'influenceurs. Donc c'est pas forcément après pour des petites marques, il y a des grosses marques qui vraiment targetent tous les groupes, mais pour de façon différente, pour des raisons différentes et à des moments différents dans leur campagne. Donc une grosse campagne par exemple comme ça, l'influenceur macro, on va prendre l'exemple de Calvin Klein, ils ont fait une énorme campagne qui est sortie récemment avec des énormes stars,
ouais,
pop,
tu nous avais parlé, ouais.
Et autres. Donc là, elle vient de sortir, ça évidemment, on en a parlé partout. Et là maintenant, sur les réseaux sociaux, ils réutilisent donc le langage qu'ils ont utilisé dans cette campagne pour collaborer avec des mid-influenceurs qui sont donc ceux entre 100 et 500 000 followers et des micro-influenceurs qui ont entre 10 000 et 100 000, qui sont payés beaucoup moins cher et qui, eux, vont créer leur propre campagne pour leur following, dans leur style. Donc ça leur est beaucoup moins imposé qu'une grosse campagne pub qui est vraiment, là on t'engage pour faire ce qu'on te dit, avec les autres types d'influenceurs, on les engage pour faire ce que eux savent faire pour faire appel à leur audience. Et là, c'est là qu'on voit, donc eux sont moins chers, et c'est là qu'on voit un engagement qui est bien plus fort, puisqu'on target des gens qui ont une audience qui est très engagée avec eux. On voit en général des retours sur les ventes qui sont bien plus élevés en prorata, hein, bien sûr, que des macros. Les macros, elles auront aussi beaucoup d'importance dans les ventes, mais au prorata, il y en a moins que des macros et des micros. Et donc, en fait, ce que ce rapport explique, c'est que chaque phase est importante. Et en fait, ça dépend vraiment du budget d'une marque. Il y a certaines marques qui ne pourront pas du tout faire le tiers macro, mais qui pourront très bien faire le micro et le nano, qui est donc entre 1000 et 10 000. Et là, c'est pour targeter peut-être des influenceurs qui sont dans des marchés plus petits, donc les moins grandes villes, des personnes plus âgées, les hommes aussi beaucoup, des collectionneurs, par exemple, des marques de montres. Vous travaillez beaucoup avec des collectionneurs qui travaillent avec... Et eux, ils ont une recherche complètement différente par rapport aux gens de la mode ou de la beauté. La beauté, c'est vraiment ce fonctionnement macro, mid, micro, nano. Des marques de luxe pour hommes, eux, ils travaillent avec des gens complètement différents. Donc, ils vont faire appel à des athlètes, à des collectionneurs, à des gens qui sont plus dans le business, etc. Et même quand ils font leurs événements, moi, je suis allée à plusieurs événements Omega, ils invitent énormément de collectionneurs qui sont donc des gros acheteurs et qui, eux, ont également des plateformes où ils parlent des montres et ils ont des fans. Et donc, voilà. Donc, eux, ce sont donc des nano, voire micro-influenceurs.
D'accord. Tu peux nous donner une fourchette de prix? Là, tu nous parlais de 50 000 euros pour un poste sur du macro. Sur du mid, du micro et du nano, c'est quoi?
Alors, le mid, ça commence à, je dirais, à peu près 5 000 jusqu'à, à mon avis, 15-20 000 par poste.
Ouais.
Après, maintenant, avec les stories, la façon dont les stories ont évolué, tout ça, ça change. Parfois, certaines marques arrivent à inclure les stories dans le package. Ça dépend des marques, ça dépend de ce qu'elles veulent faire, ça dépend du nombre de hashtags. Pour des micros, on est à entre 2000 et donc 5000. Et des nanos, j'ai un peu moins de visibilité là-dessus parce que j'en travaille pas avec des nanos, mais je dirais, ça doit probablement commencer à 500. Et aller jusqu'à à peu près 1500, 2000. Et il y a certaines filles qui en font beaucoup, beaucoup, donc qui gagnent très bien leur vie parce que du coup elles sont très abordables. Et si les marques voient qu'il y a un retour sur investissement et de l'engagement, elles vont réinvestir avec elles très régulièrement. Donc ça peut être dès qu'il y a une sortie de collection. Donc maintenant on sait que les sorties de collection, une marque comme Zara, c'est une fois par semaine, Mango aussi. Et donc il y a des filles qui peuvent gagner 1000 euros par semaine.
Ouais.
Avec une marque.
Ah, c'est pas mal. Hein.
Oui, c'est pas mal.
C'est un bon petit business, quoi.
Exactement.
Surtout quand t'as 17-18 ans, hein, c'est pas mal.
Ah, exactement. Non, c'est... Et puis, c'est des filles qui, du coup, très souvent, quand elles réalisent que ça marche, donnent aux marques encore plus
de visibilité.
Ouais. Elles vont leur donner plus de stories. Si les gens leur posent des questions, elles repostent. Elles sont contentes de voir qu'on parle d'eux. Donc, elles repostent les stories où on a parlé d'eux, etc. Mmh. Donc, en fait, très souvent, les nanos et les micros sont beaucoup plus généreux avec les marques que les macros. Excepté avec les très grosses marques. Les macros sont très généreuses avec des marques comme Chanel, Dior et autres parce qu'elles sont après invitées à des événements très luxe, très privilège, très exclusif. Et donc là, comme elles veulent être régulièrement invitées parce que ça leur donne aussi de l'exposition à elles, et puis c'est très bon pour leur image d'y être. Donc dans ce cas-là, ces marques-là sont beaucoup plus chanceuses que d'autres.
Ouais. Très bien. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une campagne d'influenceur? Alors, je sais que dans le rapport, là, par exemple, il parle de Gany.
Monica qui a fait Zara.
Monica qui a fait Zara.
Mais en fait, moi, je trouve qu'il y a un autre exemple qui est très intéressant, qui est dans le même style que Gany. C'est des marques comme Byfar. Oui. Et en fait, ce qui est intéressant avec des marques comme Gany, comme Byfar, comme Staud, c'est que ce sont des marques qui, en fait, ont décidé de s'intéresser à des filles cool, avec une bonne dégaine, qui sont plutôt des micros, voire qu'est-ce que c'est l'autre, tiens, dont on nous disait, attends, j'oublie, mid micro filles, qui sont des artistes, des écrivains, enfin tout ce genre de filles qui sont vraiment cool, de leur offrir les chaussures, contrairement à des filles qui sont macro, elles reçoivent moins de cadeaux, donc il y a plus de chances que si elles aiment, elles le portent et autres. C'est ce qui s'est passé, elles ont aimé la marque a bien convenu à ces filles, cette marque avait fait un super travail de recherche, comme on parlait au début, de à qui elles veulent vendre, et ensuite ce qui s'est passé, c'est que elles ont donné beaucoup de visibilité à la marque, elles ont rendu la marque un peu connue, très cool, très désirable, et du coup quand les macros ont commencé à recevoir les chaussures plus tard, les macros les ont postées. Alors que je pense que si Byfar, qui était une marque inconnue, comme Nanouchka, avait décidé que tout d'un coup, ils allaient offrir aux macros des chaussures, c'était un nouveau style qui était beaucoup plus classique. Je pense que les macros auraient regardé ça comme ils auraient regardé d'autres marques, les auraient pas forcément portées, et en fait, ça aurait été un peu un flop. Alors que l'inverse, rentre un produit cool, les macros, elles le veulent aussi. Elles veulent être cool. En fait, il y a beaucoup d'influenceuses macros qui sont pas cool. Elles sont très fashion, elles sont commercialement fashion, elles ont le style un peu plus masse, le t-shirt avec la marque et autres. Elles ont pas c'est pas forcément des filles qui ont une dégaine de folie, quoi. C'est pas des filles comme Camille Charrière, comme Anna Kras, comme Perny, comme ce genre de filles qui ont Veronica Heilbrunner ou Monica Henley, qui sont des filles qui ont vraiment du style, du goût, et du coup quand elles mettent quelque chose, on a vraiment envie de le mettre.
Mais par exemple, quand tu parles de Byfar, de Nanouchka, etc., qui ont fait une c'est une remontée en fait par les influenceurs, les micros, les nano influenceurs et les mid influenceurs. Ça c'était, elles ont commencé ce cheminement là il y a trois ans en arrière.
Est-ce
qu'aujourd'hui tu penses que c'est possible, c'est une bonne stratégie de
toujours
le faire comme ça?
Tout à fait. Je pense que se s'intéresser à des quand on est une marque de mode, surtout s'intéresser à des filles qui sont vraiment mal et qui sont en plus suivies souvent par des éditrices, du coup, des rédactrices de mode, qui sont suivies par des retailers, parce que Matches Fashion, Net-a-Porter, Essence, Mytheresa et autres, ils suivent les filles vraiment cool, qui ont vraiment du goût. Ils suivent les grosses aussi, mais c'est vraiment celles qui sont stylées, qui vont aussi guider un peu leur choix. Tiens, si toutes ces filles-là ont porté du Gany, on va peut-être les regarder de plus près, on va peut-être acheter. C'était intéressant de voir justement quand je suis allée visiter ce matin les nouvelles galeries Lafayette, j'étais hyper excitée à l'idée d'y aller, et c'est vraiment intéressant de voir le genre de marques qui sont là. C'est vraiment ce genre de marques qui ont explosé grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, beaucoup sont là, ce qui fait que du coup il va y avoir un engouement pour cette boutique bien plus que les galeries Lafayette normales, quoi. On va vraiment avoir une audience très social media. D'ailleurs, c'est très Instagrammable. Du restaurant à tout, en fait. Au miroir, aux cabines d'essayage. Tout est fait pour que les filles, même si elles n'achètent pas, Instagram qu'elles ont essayé ça à tel endroit. Et en fait, c'est ça qui crée une demande, en fait. C'est que si cette audience apporte ses fringues juste par par cadeau au départ. Après, une fois qu'il y a un projet à faire, une marque comme Ganni, une marque comme Byfar, si tout d'un coup elle s'adresse à ses filles en disant voilà, maintenant on a un peu de budget, on a envie de faire un projet avec vous, on en a pas beaucoup, mais voilà ce qu'on vous propose, ça va être super cool. Elles savent qu'il y aura d'autres filles très cool, elles savent que le projet sera top, que ça sera différent, que ça sera sûrement moins commercial, qu'elles auront accès à certaines des actrices ou des chanteuses qui ont été fans, ou de Helena Christensen, tu vois, pour Ganni. Et du coup, elles savent qu'elles vont faire partie d'un truc qui va être vraiment à part, quoi. Ouais. Et qui va encore les mettre à part.
Ouais.
Et ces marques-là vont pas inviter les mêmes filles que Chanel.
Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'une influenceuse, elle convertit?
Alors, une influenceuse, elle convertit si elle a déjà parlé, si elle parle vraiment des marques qu'elle porte. C'est-à-dire qu'une fille qui poste ses looks sans dire ce qu'elle porte, les filles vont regarder ses photos, vont aimer ce qu'elle porte, vont peut-être lui poser des questions, mais si l'influenceuse répond pas à ces questions, elles sauront vraiment jamais quelle marque elle porte, et donc elles vont regarder d'autres filles, d'autres influenceuses pour vraiment faire du shopping. Donc en fait, les marques, si elles veulent vraiment avoir un retour sur investissement, il faut qu'elles travaillent avec des filles qui très régulièrement parlent des marques qu'elles portent, leur disent où l'acheter, etc. Donc du coup, quand la pub Instagram arrive, c'est pas genre un choc qu'elles nous disent alors là je suis habillée en Ganni, ou là je suis habillée en Levi's, quoi. Alors que si elles disent jamais rien, d'un coup, si on dit ah bah aujourd'hui j'avais décidé de porter mon jean Levi's avec mon t-shirt blanc Levi's, j'espère que ça vous plaît, et d'ailleurs vous pouvez l'acheter là. Non, ça marche moins bien. Et surtout que maintenant que Instagram a mis au point une nouvelle technologie qui sort, je crois, cette semaine, où même les influenceuses vont pouvoir avoir des petits points sur leurs photos où on pourra cliquer et acheter directement. Les filles qui n'auront jamais fait ce genre de projets un peu plus commerciaux, ça va être un vrai choc pour leur audience, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont avoir peur de perdre des followers, perdre de l'engagement, etc. Alors que pour celles qui ont toujours fait ça de façon très ouverte, comme Ariel Chenet, qui a Something Navy, comme cette fille qui s'appelle Danielle Bernstein, qui a We Were What, qui sont toujours dans le shopping avec des liens et autres, elles, c'est des filles qui vendent, parce qu'elles ont une audience qui achète.
Ouais.
Elles n'ont pas une audience qui les suit pour la même chose qu'une fille qui suit une fille plus artistique.
Très bien. La deuxième partie, le petit 2, c'est Building Partnership.
Mm-hmm.
Il parle par exemple de comment prendre contact avec ces influenceuses,
ouais.
Entre autres. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, enfin nous donner 2-3 tips là-dessus sur comment tu rentres en contact avec les influenceuses, comment tu gères la relation sur le long terme, etc. Mais tu l'as un petit peu déjà abordé là juste à l'instant, mais essaye de nous en dire un peu plus.
Ok. Alors, soit on est une très grosse marque avec une grosse équipe, et l'idéal c'est de créer une équipe qui va faire ce genre de travail, parce qu'après on a créé sa propre database et on est vraiment indépendant et on peut faire et on n'a plus besoin de faire appel à qui que ce soit. Soit on est une petite marque et le mieux c'est de le faire soi-même jour et nuit et de faire des recherches, ou de faire appel à des agences qui sont là pour ça et qui vraiment sont spécialisées dans la mise en relation avec des influenceurs. Donc tout à un coup, il y a même des softwares maintenant qui existent qu'on peut acheter. Non, mais bon, tout ça, ça a un coût. Hein. Créer une équipe interne, ça a un coût. Faire appel à une agence, ça a un coût. Elles sont très chères. Et souvent, elles veulent faire le suivi de campagne. Elles veulent travailler sur tout ça. Elles gèrent l'analytique. Donc bon, elles deviennent vraiment des agences spécialisées là-dedans. Soit, c'est le faire soi-même. Le problème de le faire soi-même, c'est que tout le monde ne liste pas son email ou l'email de son agent. Donc pour être en contact et envoyer des DM, donc des messages directs par Instagram, si la marque vous suit pas, enfin si l'influenceuse vous suit pas, va pas forcément avoir le message, ça peut prendre longtemps, vous allez louper, c'est pas très professionnel comme approche. Moi par exemple, en tant qu'agent, quand mes artistes elles sont contactées par message direct, Très souvent, la fille me le dit une semaine à 15 jours après, parce qu'elle ne l'avait pas vu, parce qu'elle leur a dit, tiens, c'est l'email, mais que les marques veulent passer par les influenceuses en direct et pas par les agents. Donc, du coup, ça avance pas. Donc, c'est vraiment, il faut passer par les agents si elles en ont. Ça va très vite. On sait très vite ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Et puis, écoutez ce que les agences vous disent. Il y en a beaucoup qui savent quand même de quoi elles parlent, surtout pour les marques qui sont plus masses, pour les marques qui sont de luxe ou qui sont niches, c'est plus difficile, mais pour les marques de masse, il faut vraiment écouter ce que les experts disent, parce qu'ils savent.
Il y en a vraiment beaucoup des agents ?
Des agents d'influenceurs ?
Ouais.
Alors vraiment beaucoup, pas. Il y a de plus en plus d'agences de mannequins qui créent un secteur, donc ils sont plus des bookers d'influenceurs, donc ils répondent à ces demandes, un peu moins des démarches, qui créent moins de projets. Il y en a de plus en plus, oui, parce que c'est un business maintenant, donc c'est comme tout, ça se développe. Et il y en a, oui, il y en a pas mal, mais il y en a pas énormément. Enfin, je veux dire, si on a un projet, on email peut-être une vingtaine d'agents et on a le gros des influenceurs, quoi.
Ouais. D'accord.
C'est pas encore énorme. C'est pas comme les agents de mannequins. Mais il y a quand même maintenant des casting directeurs qui sont spécialisés dans le real people. Et souvent, les influenceurs sont dans le real people.
D'accord.
Okay. Enfin, les micros, les nanos. Les mid et les macros sont dans une nouvelle catégorie qui est vraiment influenceurs.
Très bien. Ok. Alors, il y a un autre sujet qui est aussi intéressant, c'est... j'ai cru comprendre, hein, page 30. Non, mais c'est toute la dimension créative. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons de le faire, mais soit tu pousses ton produit et que tu veux vendre un produit, mais tu as aussi toutes ces créations de campagne avec un influenceur.
Ouais. Ou de création de marque aussi, tu veux dire.
Ouais, création. Ouais. Et alors, il y a la création... Enfin, c'est plein de choses différentes, ouais, mais donc il y a la création de marque avec un influenceur, les créations de campagne, typiquement... je sais pas, une marque vient chercher un influenceur pour son univers à elle, pour sa personnalité, etc. Et va demander à l'influenceur de créer
squad,
de créer l'image, créer sa squad, etc. C'est quoi les guidelines pour ces façons de faire?
Alors là, ça dépend si c'est. C'est comme ce qu'on disait au début, c'est de vraiment savoir à qui on veut s'adresser. Ouais. Est-ce que c'est une jeune fille? Est-ce que déjà on est dans la beauté ou dans la mode? Donc, si on est dans la beauté, il faut parler à des filles qui parlent de beauté. Là, c'est vraiment, il faut, bon, déjà, quand on fait ce genre de truc, en général, on s'adresse à une macro. Et donc, il faut déjà voir celles qui font pas d'autres campagnes. On va prendre l'exemple de la beauté. Une fille comme Sabina Sokol, par exemple, elle fait Lancôme. Il y a Camilla Coelho qui a aussi fait, je crois que c'est Lancôme. Il y en a maintenant qui font Maybelline, Laura Mercier, Violette est chez Estée Lauder. Donc déjà, il faut voir un peu quel genre de personne. Est-ce qu'on veut quelqu'un qui parle à une audience de 25 ans et plus ou plutôt la jeune, donc 20 ans et moins. Et là, c'est prendre des filles qui sont quasiment comme des célébrités, hein. C'est vraiment de la grosse macro influenceuse qui, elle, va, quand elle va faire sa campagne, va demander à ses copines influenceuses. Donc là, par exemple, Ami Song, quand elle a créé sa marque, qui vient de sortir avec le groupe Revolve, va la demander à ses meilleures copines, qui sont aussi des grosses influenceuses, de faire partie de la campagne. Et donc, du coup, elle crée une campagne un peu à effet boule de neige. Ça dépend, de nouveau, ça dépend du budget, mais si on veut faire quelque chose qui va avoir un gros impact et avoir un gros déroulement, et qu'on a le budget, il faut prendre quelqu'un, soit une célébrité. Donc là, il y a l'exemple dans le rapport de Good Americans. Et ces célébrités-là, elles ont accès à d'autres célébrités, à des fans, à des influenceurs fans. Et donc là, on crée une méga, méga campagne, quoi. Mais ça, ça marche très, très bien quand on s'adresse à une jeune audience. Ça marche moins bien quand on s'adresse à une audience un peu plus éduquée, un peu plus âgée. À partir de 30 ans, les gens ont envie d'un peu plus d'individualisme, d'individualité. Et donc, s'habiller comme tout le monde, acheter le produit que tout le monde a, acheter le produit masse, c'est un peu moins appealing, je pense.
Dans le rapport, toujours, il y a toute une partie qui est focus sur comment on mesure le retour sur investissement, c'est quoi les métriques, c'est quoi les KPIs qu'on regarde pour mesurer son retour sur investissement.
Alors, Il y a des outils maintenant. Il y a des compagnies tech qui ont créé toute une nouvelle série de software, une nouvelle série d'outils pour mesurer tout ça. Donc il y a le ROI, retour sur investissement. Il y a le IMV qui est l'impression.
Ouais.
Et tout ça, ça dépend un petit peu de nouveau du type de campagne qu'on a décidé de faire.
Ouais.
Et donc du type d'influenceur qu'on a choisi. Comme on le disait tout à l'heure, il y a des influenceurs qui sont spécial pénétration. Donc là, on parle plutôt comment on a rentabilisé en IMV. Et ça, c'est exactement comme là, ils essayent de mesurer ce que ça aurait été si ça avait été une campagne print ou télé, par exemple. Mmh. Donc, si on a eu 10 millions d'impressions, ça nous a coûté tant? Est-ce que c'était rentable par rapport à une page dans le Vogue ou une page dans ci ou une page dans ça? On essaie de, c'est ça un peu. En fait, au début, pour convaincre dans le marketing ces big boss, il fallait un peu dire oui, mais voilà, on va peut-être dépenser 50 000, mais comparé au je sais pas combien qu'on aurait dépensé avec Vogue, on a parlé à une audience plus targetée et plus grande, quoi. Donc ça, c'est l'IMV. Le ROI, donc le retour sur investissement, bah, c'est un peu la même chose, sauf que c'est des softwares maintenant qui sont différents et qui là vraiment vont vous dire, bah, alors d'après le lien qui était un swipe up sur les stories, on peut vous dire combien de personnes sont allées sur le site. Et ensuite, de là, on peut vous dire combien de personnes ont acheté. Souvent, les marques donnent un lien précis qui est tagué, donc qui est seulement celui que l'influenceuse va utiliser. Chaque influenceuse a son lien qui lui est propre. Et donc, ils savent si d'après le lien de machine ou de machine, qui a plus vendu. Donc, en tout cas, ça sert à savoir dans sa campagne qui vend plus ou moins et avec qui il faut retravailler. Après, de nouveau, c'est des liens. Si après, moi, j'ai réfléchi et que d'un coup, je retourne sur le site deux jours après, quand j'ai réfléchi, je vais pas réutiliser le même lien, je vais juste aller sur la marque. Donc, ils sauront pas forcément qui est l'influenceuse qui m'a fait acheter, mais ils auront bien vu sur peut-être les 15 jours de la campagne s'il y a eu un pic d'achat ou pas.
De cette influenceuse,
voilà.
Ou pas, quoi.
Voilà, exactement. Donc, le retour sur investissement, c'est vraiment de la data. Alors moi, je suis pas super spécialisée là-dedans parce qu'on me demande pas de le fournir, mais de nouveau, les agences spécialisées là-dedans, elles fournissent très régulièrement ça, ou les grosses marques ont vraiment leur équipe qui gère tout ce qui est analytique. Il y a des vraies nouvelles équipes qui sont créées là-dessus. C'est du data, c'est devenu comme de c'est scientifique, quoi.
Ouais, en même temps, ça peut être très compliqué, quoi. Un lien, pouvoir suivre un lien avec Bitly ou une autre plateforme comme ça, c'est relativement simple.
Ouais, voilà, mais ils regardent d'autres trucs aussi, quoi. Okay. Ils essaient de voir quel âge avaient ceux qui ont acheté, où est-ce qu'ils ont acheté, dans quelle partie. Enfin, c'est peut-être pas super compliqué, mais bon, s'il faut que tu fasses ça sur une campagne, c'est quand même beaucoup de temps, quoi. Ouais. Si t'as engagé un influenceur, tu peux traquer toi-même, mais si t'en as 50, 100, ou je sais pas combien, ouais, pour un gros lancement.
Ça arrive d'ailleurs qu'il y ait autant d'influenceurs.
Bien sûr. Des grosses marques de beauté, quand elles font un gros lancement, elles utilisent entre les nanos et les macros, elles peuvent utiliser jusqu'à 100 influenceurs. Mmh. Calvin Klein, pour leur grosse campagne, ils utilisent pareil énormément d'influenceurs. Mmh. Et puis après, chaque marque en plus a sport, sous-vêtements, t-shirts. Chaque marque choisit en plus qui leur convient le mieux. Mmh. La fille qui a des super belles lèvres, elle fera la campagne bouche. Et celle qui a des beaux yeux et des beaux cils, elle fera la campagne mascara. Mmh. Donc tout est vraiment maintenant de plus en plus détaillé, de plus en plus regarder, mais il y a aussi beaucoup de marques qui veulent vraiment, qui sont moins dans, de plus en plus on est moins dans le ROI, on est plus dans l'engagement.
Mm-hmm.
C'est vraiment ce que les marques se sont aperçues, que c'est vraiment aussi ça qui est important, c'est de comme je le disais la dernière fois, il y a tellement de marques, il faut absolument se créer une place et qu'on parle de soi.
Mm-hmm.
Donc même quand il y a une controverse sur un, je suis désolée pour mon mauvais français,
non c'est pas mal, je suis d'habitude.
Merci. Quand il y a une campagne qui crée un peu controversial,
ouais,
et ben ça on s'en fait quand même parler de soi, quoi. Mmh. Donc tout d'un coup, c'est dans la presse. Oh, telle marque a dû faire présenter ses excuses à la communauté latino parce qu'ils ont utilisé une fille blanche pour un produit machin. Donc on en parle. C'est pas un super bien, mais il y a quand même des gens qui vont dire tiens, c'est quoi cette marque, je connais pas. Ils vont aller regarder et tout. Donc tout. Il y a quelques mois, comment il s'appelle? Diet Prada, ils sont attaqués à pas mal de marques et il y a beaucoup de marques qui ont dit après ça oui mais on a eu un pic parce que en fait les gens ont voulu voir qui on était, de qui ils parlaient, ouais, ils nous connaissaient pas exactement, ils ont mis le spot sur nous, donc personne ne veut avoir ce genre de spot trop régulièrement.
Ouais, mais de temps en temps, ça fait pas de mal.
Mais
quoi.
De temps en temps, c'est comme tout, hein, toute publicité est de la publicité. Donc
Et moi, je me rappelle d'une campagne qui a été faite il y a pas très longtemps. C'était Glossier qui s'installait en France. Il y avait une campagne d'affichage, etc. Mais il y avait aussi une grosse campagne d'influenceurs et toutes les influenceuses parisiennes avaient été appelées à la rescousse, enfin pas avaient été contractées quoi.
Ouais.
C'était assez intéressant. La question que j'avais, c'était combien de temps en amont ça se prépare une campagne d'influenceurs comme ça?
Les grosses, ça se prépare, je dirais 2 mois avant. On commence à enfin 2 mois avant. Moi, je suis contactée grosso modo 2 mois avant. En général, on négocie pendant 3 semaines. On sélectionne une date à laquelle c'est possible et ensuite on poste donc les 2 mois après le début. Je pense que avant ça, une marque, elle sait déjà à peu près à quel moment elle a des lancements et elle a déjà commencé à regarder à qui il fallait qu'il s'adresse. Encore peut-être 1 mois avant. Et puis après, il y a des choses qui sont beaucoup plus instantanées. Et ça, c'est pour des plus petites campagnes. Si on a besoin de choisir 10 influenceurs, on n'a pas besoin de faire ça 6 mois à l'avance. Mais et puis aussi, il y a des marques qui aimeraient retravailler avec les mêmes. Donc après, c'est plus facile. On dit, tiens, eux, ça, c'est les 40 qui ont super bien marché la saison dernière. On rebosse avec eux. Uniqlo, ils aiment changer régulièrement, par exemple. Donc, ils vont s'adresser à une audience différente pour beaucoup de choses. Ça dépend, mais moi, je dirais à peu près 2 mois. Ouais.
Très bien. On arrive à la conclusion du rapport. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est quoi, s'il y avait 5 points à retenir de ce rapport, qu'est-ce que ça serait?
Alors moi, je dirais que la première chose, c'est vraiment de bien savoir à qui on veut s'adresser pour choisir les bonnes personnes. Donc ça, c'est vraiment la base du marketing, mais ça, c'est vraiment très, très, très valable avec l'influence. Savoir comment investir, ça c'est très important. Si vous êtes une marque inconnue, mais ou qui pas inconnue forcément, mais une nouvelle marque avec du budget, avec de l'investissement, avec du venture capitalisme, et que vous pouvez vous permettre d'investir, je dirais faites de la pénétration de marché, prenez quelques filles qui ont vraiment beaucoup de following, ça vaudra le coup. Et ensuite, sur le long terme, continuez avec des micros, continuez avec des mid-level pour vraiment là créer de l'engagement, créer de l'affection et autres. Et ensuite, bon, là, ils en parlent pas dans le rapport spécialement, mais après ça, moi, je pense qu'il faut créer des événements, donc des micro-événements et 1 ou 2 gros événements par an, très importants pour que les gens puissent avoir une espèce de contact physique avec la marque, les produits et les influenceurs qui travaillent avec eux. Et ensuite, une autre chose qui est très importante, je dirais, et ça c'est parce que je le vis moi au quotidien, c'est si vous choisissez une influenceuse pour ce qu'elle fait, pour la façon dont elle interagit avec son audience, faites-lui confiance, demandez-lui ce qui marche le mieux quand elle poste, demandez-lui si c'est plutôt les photos que ses copines prennent avec un iPhone ou si c'est les photos professionnelles, demandez-lui vraiment de voir quels sont les projets qui ont le mieux marché, incluez-les dans le processus de stratégie et de créativité, parce qu'il y aura un bien meilleur retour sur investissement et sur l'engagement si elles ont fait un projet qui leur ressemble. C'est pas la peine de prendre des influenceuses cool, hyper créatives, si c'est pour leur dire, alors il faudra mettre un t-shirt blanc, un jean bleu, vous mettre de profil et avoir la main dans les cheveux pour vendre ce bracelet. Ça va pas marcher. Si elles ont jamais fait ça et que ça ressemble à rien qu'est dans leur feed, les gens verront tout de suite que c'est complètement bridé et autre. Voilà, donc ça c'est vraiment pour moi un autre point très important, c'est utiliser leur créativité, utilisez-les, elles savent, il y en a beaucoup qui font ça très 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 bien,
ouais, c'est leur métier.
Qui sont sérieuses, c'est leur métier, voilà. C'est sérieux pour elles.
C'est des vrais professionnels.
Exactement.
Très bien. Ben écoute, merci beaucoup. Sauf si tu avais des points à
non,
à
non, c'est ça. Bon, je pense que là, on a quand même fait pas mal de tours entre l'épisode dernier et celui-ci.
Ouais.
Après, si les gens ont des questions, bah, on peut faire un Q&A et parler de cas peut-être plus précis. Mm-hmm. Parce que là, on reste évidemment dans les généralités. C'est un super gros sujet. Mais si jamais il y a des questions et autres, bah, dites-nous et on répondra avec plaisir. Ouais.
On a qu'à lancer un appel comme ça. Hein. Prochain épisode, on vous propose de faire un Q&A avec Delphine Delval de Pool Creative. Envoyez-nous vos questions directement en DM sur Instagram, sur mon compte ou directement sur le compte de Delphine.
Ouais, exactement.
Ou par email, entreprendre dans la mode@gmail.com. Excusez-moi, j'ai pas encore d'adresse pro, mais je vais y remédier et on répondra d'ici 3 semaines, 1 mois à toutes ces questions. On compte sur vous pour nous envoyer plein de questions et on compte sur vous pour bien sûr liker l'épisode, mettre une petite note sur Apple Podcast, nous laisser un commentaire, ça nous aide énormément, enfin ça m'aide énormément à rester en haut du classement. À très bientôt, salut Delphine.
Salut, à bientôt.
Ciao.
Merci d'avoir écouté le News and Analysis Show de Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.